Chers amis, chers camarades, nos camarades ukrainiens, l'organisation Libre Opposition, en français c'est l'opposition de gauche. Nos camarades ukrainiens représentent la tendance du socialisme démocratique et ils ont participé activement dans les événements de Maïdan en essayant de proposer l'agenda politique de gauche, social, en essayant de lutter contre les tendances de l'extrême droite. Voilà. Et maintenant, ils vont faire leur topo sur ce qui se passe maintenant en Ukraine, sur la situation actuelle en Ukraine, sur les points principaux de leur programme politique, sur leur projet de développement de la gauche ukrainienne.
Surtout si vous êtes la gauche. Ça veut dire que si vous écoutez quelqu'un et dit que en Ukraine, tout le monde est d'extrême droite, les fascistes, junta, putsch, fasciste, c'est pas vrai. C'est la propagande pure des régimes. Si quelqu'un vous dit qu'en Ukraine, c'est la guerre civile, c'est aussi pas trop évident. Parce que dans cette guerre, il n'y a pas que des civils qui essayent de rester séparatistes ou dentistes au sein de Donbass. Il y a des soldats russes, il y a des mercenaires, il y a des volontaires, il y a des gens partout dans le monde, des fascistes, des extrêmes droitistes, des Norvèges, même des vacances. Et il essaye de dicter son agenda, sa version des événements. En Ukraine, on dit que tout ça, c'est l'agression de la Russie. C'est aussi la propagande. Ça veut dire que, bien sûr, Poutine est très intéressé de tenir la situation instable, mais il y a beaucoup de gens locaux, de gens indigènes, qui veulent rester sur son sol, rester aussi, ce qui concerne populaire, c'est que tout le monde veut la paix. Mais sous quelles conditions? Ici, c'est vraiment la politique. Quelle paix? Et sous quelles conditions? Voilà. Maintenant, les choses un peu sont un peu changées. Poutine ne veut plus payer, faire des subsides, des pensions, les gens, il faut que Donbass reste au sein de l'Ukraine, mais sous condition de l'union des États autonomes, mais au sein de l'État de l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine paye les subsides, etc., mais la Crimée, c'est avec Russie. La nouvelle Russie, ça veut dire que les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, c'est pas plus des projets indépendantistes, c'est autre chose, c'est plutôt deux régions autonomes au sein de l'État. Voilà. Ça veut dire que ça bouge. Après Maïdan, si vous connaissez, savez ou pas, il y avait quelques étapes de Maïdan. Il y avait le grand Maïdan, et après il y avait la rébellion, l'insurrection assez violente. Vous savez, il y avait une centaine de morts. C'était vraiment... c'était pas absolument Maïdan au vrai sens, c'était vraiment les révolutions. Mais après ça, on a élu le nouveau président, Petro Poroshenko, et il a empilé dans les temps des chefs de guerre. Et à mon avis, la période de bonapartiste qui a commencé après la révolution de Maïdan. Et maintenant, on est vraiment dans le régime de la guerre, mais les nationalistes qui sont partout, comme en France, et en Ukraine, il n'est pas puissant au niveau du pouvoir, mais ils sont populaires au niveau des opinions. Comme vous savez, tous les nationalistes, ils aiment beaucoup la guerre. Ça veut dire que ça vous donne élan patriotique, ça vous donne entendrez des demandes là, tous ces discours-là. Et vraiment, la gauche qui veut parler des projets sociaux, des gens, des petits gens, ils ne sont pas populaires au niveau des médias. C'est pas leur grand discours. Non, pas du tout. Mais peu à peu, maintenant, les gens ne sont pas déçus, mais quand même, ils voient les choses très clairement. Après, après la chabane, c'était quand même désastreux.
Ah oui,
c'est ça.
D'accord. Voilà. Maintenant, peu à peu, ils sont conscients de la vraie politique de notre gouvernement. Ça veut dire que Poutine et Poroshenko, ils sont voilà. Poutine, il est guerrier. Poroshenko, il est bonapartiste. Tout le monde veut continuer la guerre pour les différentes raisons. Bien sûr, pour augmenter leur autorité. Parce que la guerre renforce la popularité de Poutine. C'est vrai que Poutine est très populaire en Russie. Et Poroshenko, il fait les mêmes choses. Ça veut dire que ces deux logiques guerrières, et nous sommes opposés contre cette logique. Nous dénonçons le nationalisme, nous dénonçons cette politique, nous dénonçons aussi la politique de prendre les crédits des FMI. Personne ne parle là-dessus, mais l'Ukraine a commencé d'aller sur le chemin qui a fait la Grèce. Et la Grèce est à la fin de cette histoire, on a commencé en Ukraine. Peut-être dans quelques années, dans quelques années, on va parler des Grèce 2, parce que en Ukraine, c'est la logique économique très similaire. C'est dommage, mais en Grèce, il y a Syriza au pouvoir, et dans quelques années, en Ukraine, on n'aura pas le même projet démocratique et social comme en Grèce. Alors on a commencé de penser dans cette perspective, nous, la gauche en Ukraine, et on a supprimé toutes les différences entre nous. Et on cherche vraiment pas des nuances qui nous séparent avant. On cherche les points d'entente. Ça veut dire qu'il y a des gens révolutionnaires, vraiment de gauche, mais Maïdan et les événements après Maïdan nous a séparés principalement, essentiellement sur la question de la guerre. Et on a eu, avant 2011, l'organisation qui s'appelait l'organisation des marxistes en Ukraine. Et après, on a divisé cette organisation sur deux groupes. C'était l'organisation des gauches et l'organisation qui s'appelle Boretba, le combat. Et Boretba, c'était plutôt la tendance stalinienne, et ils ont soutenu Poutine dans cette guerre. Ça veut dire que les gens qui suivent Staline, ils suivent Poutine aujourd'hui. Pour la grande état imaginaire. Et maintenant, on voit clair qu'il y a des gauches qui restent critiques envers tous les propagandes de partout, des Poutine, des Poroshenko, des chancelières allemandes, Obama. On comprend bien qu'il existe l'impérialisme occidental, mais en même temps, il faut comprendre qu'il existe aujourd'hui un nouveau type d'impérialisme, et c'est l'impérialisme de Poutine. C'est un peu compliqué, mais il faut comprendre qu'il existe deux logiques impérialistes dans cette guerre. Voilà, et on a créé l'organisation des gauches pour unir beaucoup de groupes trotskistes, libertaires, social-démocrates, simplement ouvriers, syndicaux, des groupes syndicaux. On cherche les liens. De temps en temps, ce sont des gens qui ne comprennent pas la politique. Mais on parle des questions actuelles sur l'usine, sur l'entreprise, et on essaie de résoudre leurs problèmes. Si ils veulent, on continue de débattre sur Marx, sur Trotsky, sur Syriza, n'importe quelle question. Sinon, c'est normal, parce que c'est le luxe aujourd'hui de se séparer. On cherche les liens. Et c'est pour ça que nous venons ici en France pour participer avec l'auto-prière, avec NPA, avec les autres tendances libertaires, parce que c'est pas les différences qui sont chères, c'est plutôt la possibilité d'être ensemble, rester fort grâce à notre unité. Et j'espère que vous allez poser les questions pour approfondir cette introduction. Merci. Des questions, s'il vous plaît.
J'ai entendu ici beaucoup sur les guerres contre l'impérialisme, mais je pense que on a oublié la raison pourquoi il y a la guerre. Je veux dire pourquoi il y a cette guerre. En Odessa, il y a les hommes de gauche qui étaient dans les rues, ils manifestaient, et après ils étaient chassés par les fascistes, et ils étaient brûlés dans les maisons. Cette personne qui est survivre, il était tué dans les rues. Pourquoi? Parce qu'après la fouche qui était au Maïdan, la première décision du nouveau gouvernement, c'était l'interdiction de l'intrus. Et la personne qui habitait dans le Donbass, quand il voit le nouveau gouvernement, qui donnait une possibilité que nous brûlions de la même manière que les personnes de Odessa, ils ne voulaient pas vivre dans ce pays. Ils faisaient le référendum et la majorité des personnes disent qu'on ne voulait pas être des membres de cet État. Et c'est tout. Ce n'est pas la question de Poutine, c'est la question des de personnes qui font le référendum. Nous parlons de langue russe et nous ne voulons pas que ce soit interdit. Et après, moi, la question que je vais vous poser, c'est la question sur la madame secrétaire des États-Unis qui est venue en Ukraine et a dit que les États-Unis, dans les dernières 20 années, donnaient 3 milliards de dollars pour la préparation de révolution. Qu'est-ce que c'est la révolution préparée par les États-Unis? On a vu cette révolution dans beaucoup de pays. Tous les temps, c'est le même schéma et tous les temps, le même mot. Que la boute, c'est que ce pays vient pour le. Que là-bas, il y a base militaire des États-Unis, contrôle des impérialistes, et comme ça. Mon question est si les États-Unis donnaient beaucoup d'argent pour préparer toute cette merde en Ukraine, donnaient de l'argent pour le privé secteur, tylko woda. Kto miał d'argent i donne pour vous.
Merci. Merci beaucoup.
Moi je viens de la Grèce, mais l'Ukraine c'est tout près de chez nous et c'est la même entreprise, ça nous intéresse. D'abord, je suis un peu étonné que dans le discours initial qu'on a écouté, il n'y a pas eu un commentaire sur le rôle de l'Union européenne pour la tragédie ukrainienne. Ça a commencé par là. Ensuite, les Américains ont pris le contrôle avec ça que les camarades précédents ont dit, avec tous les frics qu'ils ont donnés. Mais les Européens, les impérialistes européens ont pris la responsabilité énorme sur cette tragédie. Ça, c'est le premier point que je veux dire. Parce que moi, je vois, c'est une illusion que l'Ukraine va connaître la Grèce après quelques années. Moi, je trouve que la Grèce, l'enfer dans laquelle nous vivons en Grèce, si les passés, les Assyriens, on vit toujours dans une tragédie de chômage et de destitution. Alors, c'est rien, c'est un paradis en comparaison avec l'Ukraine. Votre situation financière, économique, militaire, tout ce que vous voulez, c'est pire qu'en Grèce. Vous êtes en situation pire qu'en Grèce. Et cette guerre que moi, je vois votre, la guerre qui existe là, elle a déconné. C'est la guerre économique de l'FMI qui va vraiment pulvériser toute la population ukrainienne, et nationaliste ou pas nationaliste, tout pour être détruit avec la guerre économique de l'FMI. Et de l'autre guerre, mon Dieu, c'est vraiment une guerre de colonisation des Donbass par l'impérialisme et le fascisme. Alors, il faut être très clair comme ça. On ne peut pas être neutre et dire tous les deux sont mauvais. Il y a le peuple des Donbass qui résiste aux fascistes et au régime de Kiev, mais on n'est pas neutre malgré toutes les différences politiques qu'on peut avoir avec ceux qui résistent au fascisme. Pravi Sector, ce n'est pas la même chose, Svoboda, avec les autres. Et c'est une calomnie de dire ça quand j'ai attendu sur Borodva. Moi, je suis trotskiste. Hein. Borodva, ce n'est pas stalinien. Borodva est sorti d'une scission de Komsomol. Il y a des staliniens, il y a des trotskistes. Et moi, je connais. Et c'était en Donbass, une manif de Borodva qui avait la figure d'Adolf Otsenko, de Voroshilov et aussi de Léon Trotsky. Ça, c'est la vérité. Et toujours, et surtout la gauche en Occident, on n'est rien de ça. Et on est dans la merde, tout, pardon pour l'expression.
Merci. Je vois la mer de là-bas et la mer d'ici. Il y a une question aussi. Ok. I speak in English and Savas, when you recover, will translate. On the 2nd of May 2014, on the House of the Trade Unions in Odessa, 48 people were burned to death. The massacre happened in front, with a huge crowd in front of the House of the Trade Unions. The left opposition doesn't know who committed the massacre. They just don't know who did it. But the people who did commit the massacre are very proud of what they did. And they told us online who they were. I have here part of their publication. It is a photograph of a pregnant woman who has been strangled.
the whole crowd heard her death screams. After she was dead, the people who murdered her came to the window and flew the Ukrainian flag in celebration, and the whole crowd cheered. They were fascists and nobody else, and the left opposition cannot tell us they are fascists, because the left opposition operates in Kiev by the permission of the fascists. If they didn't agree not to oppose the fascists, they couldn't operate. That is the political position of the left opposition.
Il a mentionné le 10 mai, la tragédie de 10 mai 2014 dans Odessa, le massacre où, dans la maison des syndicats, la maison des syndicats avait été réfugiée de jeunes gens, et mis en feu par les fascistes. Et 48 personnes étaient brûlées vives là-dedans. Et d'après ça que Jerry avait dit, que la position de gauche ukrainienne, c'est pas qui est le coupable de cet massacre, mais les fascistes eux-mêmes, les fascistes ukrainiens, réclament ce crime-là en présentant des photos à une peu de femmes enceintes, après son viol, etc. Et eux, ils se réclament, ils ont diffusé partout avec les médias sociaux, que eux sont très fiers, ils sont par patriotisme ukrainien, ils ont fait ça qu'ils ont fait. C'est en général ce que j'ai compris.
Merci pour la traduction et la question brûlante aussi. Est-ce qu'il y a aussi des opinions de... On va continuer. Bien sûr, je ne suis pas là, je ne suis pas ici pour justifier l'Ukraine au niveau de Poroshenko, au niveau des dirigeants de l'Ukraine. Je suis ici comme en tant que marxiste et bon, je vous présente l'opinion de quelqu'un qui participait pendant les événements de Maïdan. Il y avait bien sûr beaucoup de gens, on ne dit pas fasciste, c'est plutôt le vocabulaire des propagandes russes. J'en suis navré, mais c'est la propagande russe qui utilise spécialement le mot fascisme. Si vous entendez dire les Ukrainiens fascistes, les propos de cette sorte-là, c'est plutôt les gens qui, en cachette bien sûr, mais ils supportent la propagande russe. Bien sûr, sur Maïdan, il y avait beaucoup de jeunes gens d'extrême droite. Bien sûr, il y avait des nationalistes radicaux qui donnaient la parole et donnaient le ton, de temps en temps très spontanément populaire. Mais c'est toujours comme ça dans les rues. Et il n'y a pas de scénario écrit par avance. Il y a des gens simples, il y a des groupuscules. J'ai dit que il y avait des politiciens extrême droite, mais il y avait des milliers de gens descendus dans les rues. Parmi eux, les gens de gauche aussi. On a eu même improvisé un peu le drapeau rouge avec les étoiles de l'Union européenne. Et on a parlé de l'Union européenne soviétique, européenne socialiste. Ça veut dire que pour nous, l'Europe, c'est quelque chose d'imaginaire. Personne ne veut pas intégrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne. On est réaliste là-dessus. Mais l'Europe, pour Le Pen, c'est plutôt un fantasme de la politique meilleure qu'il existe. Ça veut dire que au début, Maïdan, c'était le mouvement populaire, mais après, il y a des spécificités dans différentes villes. Et à Odessa, comme vous évoquez, c'est la ville où les nationalistes radicaux sont très actifs dans les clubs de foot. Les gens sont plutôt apolitiques, mais ils aiment beaucoup les symboles. Quand on parle avec eux, ce n'est pas les politiciens qui savent même pas qui est Mussolini ou Hitler ou quelque chose comme ça. Il aime beaucoup les symboles qui est à la mode. Et ils sont intégrés dans les groupes les fanats de foot. Ça veut dire que on a dit ça, c'était la tragédie que je ne justifie pas, mais quand même, ce ne sont pas les fascistes conscients, profonds et bon, têtus. C'est plutôt les groupuscules nationalistes extrêmes. Si vous voulez parler des victimes, pour l'instant, en Ukraine, c'est 5600 personnes tuées pendant cette guerre. Aussi, 1 600 000 personnes réfugiées, dont 900. Bon, il y a des gens réfugiés en Ukraine, c'est la plupart des gens qui sont déplacés. Et aussi, il y a des, à peu près 300 000 personnes réfugiées en Russie. Ça veut dire que c'est la tragédie, c'est la tragédie, pendant la guerre hybride. On utilise le terme hybride pour expliquer les différents aspects de cette crise qui se déroule en Ukraine. Mais comme vous dites, le parti extrême droite Svoboda, elles sont vraiment très minoritaires en Ukraine. Ils n'ont pas passé le seuil, même 5% pour entrer au Parlement. Il n'existe au Parlement même. Ça veut dire qu'il faut se méfier des différentes propagandes des deux côtés. Il ne faut pas choisir.
Revendique de la tradition de l'extrême droite de l'attaque.
de nationalisme ukrainien à Maïdan. Moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs discussions entre le groupe gauchiste ukrainien qui dans ses rapproches des gens des autres. Vous avez cette année le mouvement de Maïdan et vous voyez à votre côté vous avez le personnage de type Strelkov, monarchiste, réactionnaire. Vous êtes réactionnaire, vous êtes ça c'est bien votre position. Les autres ils rapprochent les partisans de Maïdan en utilisant les arguments du même genre. Voilà, dans votre mouvement, il y a plusieurs gens de l'extrême droite, si vous venez, quelque chose comme ça. Ils prononcent des phrases dégueulasses, et quelque chose comme ça. Pardon, excusez-moi, il faut voir derrière ces phrases. Oui, merci. Les assassinats politiques, ça se passe dans tout l'espace de l'ex-Union soviétique. La politique, c'est pas malheureusement l'exception, c'est la politique assez habituelle pour tous les fractions de l'oligarchie de démocratie post-soviétique. Ici, je crois qu'il faut voir les intérêts de place. Je ne veux pas dire que maintenant, je ne veux pas dire que c'est Maïdan qui est bon, c'est anti-Maïdan qui est bon. Nous devons faire l'analyse de classe. Avant de faire les conclusions, il faut quitter ce discours du peuple, de l'angle qui est partagé par deux côtés, par deux camps dans ce conflit. Pardon. Si on est marxiste, nous devons analyser les situations économiques et sociales dans l'ex-Union soviétique et particulièrement en Ukraine et dans le monde entier. Nous devons voir les intérêts et les forces économiques engagées dans ce mouvement. Voilà. C'est une petite remarque.
Bien sûr, il y a une question. Je voulais intervenir sur plusieurs points. Donc, d'une part, si on fait une analyse de classe, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, je pense que c'est important qu'on réduise pas ce qui se passe à l'est de l'Ukraine comme simplement un conflit entre Poutine et l'Occident et Porochenko. À l'est, il y a eu un soulèvement populaire. Il n'y a pas qu'à Maïdan que le peuple s'est soulevé, que la population s'est soulevée contre un pouvoir. À l'est, il y a un soulèvement populaire qui se fait sur des revendications qu'on doit soutenir en tant qu'anticapitaliste révolutionnaire, des revendications sociales qui sont portées, de nationalisation des étrangers, de l'opposition au nouveau gouvernement qui veut en effet livrer le pays au pillage impérialiste, à la mise en cours réglée de l'industrie de l'Est du pays. Et donc ça, aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui d'essayer d'intervenir à l'Est du pays contre les pro-Poutine, contre les nationalistes, pour essayer que ce mouvement aille le plus loin possible contre le gouvernement, contre les oligarques, qui, y compris les oligarques de l'Est, qui ont fait allégeance au pouvoir de Porochenko. Donc dans ce sens-là, moi je suis assez choqué d'entendre votre caractérisation de Borodba. On peut avoir des désaccords politiques. Moi j'ai lu les textes de Borodba, il y en a un certain nombre en anglais et en français. J'invite mes camarades à les lire. Il y a une condamnation de l'interventionnisme russe à l'est du pays. Donc qualifier Borodba de poutinien et de stalinien, c'est-à-dire c'est pas une façon de dialoguer avec des anticapitalistes. On peut avoir des désaccords, mais Borodba, c'est pas une organisation pro-poutine ou stalinienne, c'est une organisation anticapitaliste et qui essaie justement de lutter dans des conditions très difficiles, puisque certains militants ont été, y compris séquestrés, emprisonnés par les dirigeants des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Donc ne faisons pas d'amalgame et essayons justement de faire converger les anticapitalistes pour que la lutte soit contre les oligarques, contre les puissances étrangères qui veulent mettre en cours privé l'Ukraine, mais aussi ne sous-estimons pas aussi ce qui se passe à l'ouest de l'Ukraine, parce que ceux qui voient des fascistes à l'ouest de l'Ukraine, c'est pas uniquement les partisans de Poutine. Les fascistes qui sont là en Ukraine, Svoboda, ils étaient au gouvernement avec des ministres, c'est quand même pas pas anodin que des ministres d'extrême droite fasciste soient dans un gouvernement. Il y a des ministres qui sèment la terreur à l'Ukraine de l'Ouest. Il y a des mesures d'interdiction du Parti communiste ukrainien. Alors, le Parti communiste ukrainien, c'est pour le coup, c'est un parti stalinien avec Poutine, on peut le caractériser comme ça. Il y a quand même des mesures d'interdiction d'organisation politique, des militants politiques qui doivent rentrer en clandestinité, Borodba et en clandestinité en Ukraine de l'Ouest. Donc voilà, il se passe des choses qui font qu'on n'a pas un gouvernement normal en Ukraine de l'Ouest. On a un gouvernement avec des tendances autoritaires et un poids des fascistes très important, parce que ceux qui combattent aussi à l'est du pays et qui sont le plus motivés pour écraser la révolte de l'est du pays, c'est les fascistes qui sont en première ligne et qui et sur lesquels le gouvernement est obligé de s'appuyer. Et donc il y a une alliance de fait entre le gouvernement et les fascistes, même si les fascistes ne siègent pas aujourd'hui au gouvernement.
Merci.
Very shortly, I am from Greece. I want to make three or four points about the discussion. The first point is, it would be a fatal mistake to make any kind of political alliance front or submission to Putin, Russia, etc. This would be a fatal mistake. But this does not mean that the climax of the conflict in Ukraine does not have a main and most dangerous driving force. This is the allied Western imperialism, which in its alliance has a thousand more dangerous means to destroy the whole planet. And of course to submit the global problem again. Abilities which any Putin has not. Here is a difference that we must take into account. This is one thing. Second thing, I listen very, of course I don't want to give any lessons to people in Ukraine because I don't know the situation. I listen very carefully to the comrades saying that they try to give a focus in the class struggle and class problems. Okay, and of course the problems of peace, of what conditions, etc. We have an example coming from the Greek history, which could be in some sense useful. Historically, in the Greek revolutionary and Trotskyist movement, there has been a self-criticism, a brave one, about the failure to understand that in situations of World War II, the class struggle under situations of occupation, war and militarization of the conflict would not be handled only in pure and classical social terms. Okay. I mean to say this is the end of what I want to say. The climax in Ukraine is militarized de facto. Nobody can deny it, either me nor anybody else. And in this sense, nobody can have there a policy for developing a clear social struggle. Any social struggle must be linked with the problem, how to help people defend themselves against the military problem, how to arm themselves, how to give a solution themselves according to their needs, which means that we must support a form of self-determination of the Eastern for Donbass, Lugansk, etc. We must be in favor, of course, of not submitting to any oligarch or Putin, but to deepen the anti-capitalist elements of the struggle, which will help unite with the rest of the proletariat in Ukraine. Okay, but all this has one condition. Any imperialism, and even more, the most dangerous, which are the Western imperialists allied together, must be thrown out. Manage this, I'm afraid any discussion for developing the social agenda
La la position des nationalistes et la position des différentes sortes de propagande. Les deux côtés, de la Russie. Et si la Russie n'est pas vraiment forte dans son impérialisme d'antan, mais pour l'instant, Poutine est très populaire en Russie. 85% des Russes diront oui, oui, à tout ce qu'il fait Poutine. Et pour ça, c'est l'impérialisme au niveau des esprits. Les Russes, ils sont pauvres, mais ils sont forts. C'est toujours dans l'histoire, c'était comme ça. Lénine a écrit sur la Russie que c'est le pays le plus pauvre dans l'Europe, mais au niveau des armées, c'est le plus fort. Si je ne parle pas beaucoup de la propagande de l'Union européenne et des États-Unis, c'est trop évident pour vous en France. Ça veut dire que Poroshenko, il utilise le discours pro-européen juste pour diviser la population dans les termes géopolitiques. C'est son fétiche, d'ailleurs comme celui de Poutine, géopolitique. La guerre des civilisations, si vous voulez. Poutine parle des civilisations heureuses, le monde russe. Et en Ukraine, on parle beaucoup de patriotisme de guerrière. Si on veut rester vraiment des marxistes, on ne sait pas comment se réduire jusqu'à l'analyse des classes. Bien sûr, il y a des soulèvements populaires, il y a des que de la classe. Ça veut dire qu'il faut analyser la situation et à partir de cette situation, à partir de cette analyse-là, il faut proposer notre agenda marxiste, gauchiste, trotskiste, comme vous voulez. Agenda marxiste libertaire, je dirais. Ça veut dire que cette guerre est hybride. Il est composé de différents aspects et notre contre-réponse soit être aussi hybride, mais en restant sur les bases, sur la base des classes et de notre guerre des classes. Voilà. Ça veut dire que je vous invite d'analyser tout ça. Il faut se méfier des différentes propagandes et de ne pas tomber dans certaines attitudes unilatérales quand vous choisissez certains camps jusqu'au bout. Il faut se méfier de cette sorte de campisme. Voilà, merci.
Alors, pour les ouvrières, je voudrais déjà remercier les camarades de l'IVA bien d'être venus à la fête, d'avoir organisé ce débat. Pour ce qui nous concerne, nous avons un certain nombre de divergences dans l'analyse, dans la façon de à la fois comprendre ce qui se passe en Ukraine et puis tout ce qu'on a comme perspective à défendre. On organisera demain à 11h un débat ici au même endroit où on défendra notre propre position. Ceci étant, ces camarades, ils ont eu déjà le mérite de venir. Je voudrais quand même dire que l'Union européenne qui prétend soutenir l'Ukraine et l'Ukraine indépendante de Poutine, etc., elle la soutient en mettant des visas et des barrières incalculables pour que les Ukrainiens puissent se déplacer. Donc l'Europe forteresse, y compris vis-à-vis de l'Ukraine, malgré tout ça. Donc les camarades ont quand même déjà dû franchir ces obstacles-là, ce qui n'est pas si simple. Et puis, quoi qu'on pense de compris de leur analyse, ceux qui en ont fait ici des quasi-représentants de Poroshenko, ils sont quand même un petit peu à côté de la plaque. Voilà, je vais terminer là-dessus. Donc demain à 11h, pour notre part, on